Avec nous, notre chroniqueur juridique, Laurent Trépanier-Capistran, juriste et agent de défense de droit chez Execo. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Benoît.
Merci d'être avec nous dans ce nouveau mois. Commençons, ou plutôt poursuivons, sur le recours collectif. Donc, on était un peu plus tôt en compagnie du président de la STM et aussi de Julien Gascon-Sanson, qui est activiste engagé dans un recours collectif contre la STM. Si on peut aller vite, c'est quoi exactement un recours collectif, et notamment en vertu des droits et libertés, comme celui du Rapplique, par exemple?
Bon, d'abord, il faut que je vous dise un recours collectif. On peut aussi utiliser un autre terme. Il y a eu des changements juridiques dernièrement, donc ça se peut que vous entendiez action collective aussi. C'est le nouveau terme consacré. Mm-hmm. Donc, une action collective, ce que ça a de spécifique un peu par rapport à un recours, entre guillemets, régulier, eh bien, c'est qu'on doit passer d'abord et avant tout par une demande en autorisation. Donc, c'est un processus judiciaire supplémentaire. Donc, mm-hmm. on doit demander l'autorisation du tribunal pour ensuite entendre la cause en elle-même. Et donc, dans cette demande d'autorisation-là, il y a plusieurs choses à faire. En fait, on doit décrire un groupe, hein, parce que faut comprendre que l'action collective, elle touche un groupe en entier. Mm-hmm. Et donc, on décrit ce groupe-là.
Avec des statistiques, comprendre c'est quoi ses particularités,
c'est quoi ses
besoins.
C'est quoi ses particularités, et on doit le définir pour savoir ensuite, une fois que le jugement, pas que le jugement, c'est-à-dire que l'action est autorisée, à qui ça va s'appliquer, ouais, cette décision. Et donc, le jugement en autorisation, donc le juge va devoir justement autoriser ou refuser, mm-hmm, d'écrire le groupe visé et désigner un représentant aussi pour agir dans le cadre de cette action-là, parce que évidemment, on ne retrouvera pas en cours l'ensemble de ce groupe-là. On peut penser à des actions collectives qui ont des centaines de membres dans le groupe. Donc, une fois que cette demande-là en autorisation va être autorisée, eh bien là, on va pouvoir passer à la question sur le fond et donc entendre l'affaire sur le fond, vraiment, une fois que ce recours-là est autorisé.
OK. Ça semble un peu complexe, mais là, ça veut dire qu'on reconnaît qu'un groupe représente ou qu'il y a des personnes qui représentent ce grand groupe-là.
Exactement.
C'est ça qui se passe à l'autorisation.
C'est qu'on doit avoir on doit désigner un représentant.
OK.
Et puis, on doit aussi évaluer rapidement si les faits qui sont allégués au soutien de l'action, dans le fond, paraissent soutenir les conclusions qu'on recherche. Donc, autrement dit, on se penchera pas sur le détail, mais on va regarder à gros traits, est-ce qu'il y a une corrélation entre les faits qui, mm-hmm, sont dans la demande et puis les conclusions qu'on recherche, finalement, ce qu'on demande de déclarer au tribunal. Si on le regarde de façon très sommaire pour voir, est-ce que, grosso modo, si je peux employer l'expression, ça a du bon sens. Okay.
Et on n'est pas rendu là avec le recours collectif du Rapplique. L'autorisation n'est pas encore tombée, je pense. On a déposé la démarche, mais on n'est pas rendu à l'autorisation.
Exactement. Je crois que les dernières démarches qui ont eu lieu, c'est des demandes en autorisation de preuve, en fait.
Okay.
Donc, on est encore ramassé de la preuve.
En ce moment, donc. Deuxième partie, le fond, si en une minute on peut le dire, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de démontrer là, par, entre autres, les droits et libertés à ce moment-là?
Bien, en fait, ce qui va se passer dans l'action collective, au fond, c'est qu'on va, un peu comme une action régulière, on va tenter de prouver les conclusions qu'on souhaite atteindre. Et puis, ça peut être basé sur plusieurs bases législatives. Dans le cas qui nous occupe, évidemment, c'est les droits et libertés.
Donc, la Charte des droits et libertés du Québec.
Exactement.
OK. Autre dossier dont on a beaucoup entendu parler la semaine dernière, puis dans les derniers mois, l'affaire Jérémy Gabriel contre Mike Warren. Donc, rappelons, Jérémy Gabriel a été intimé de toutes sortes de manières par Mike Warren, un humoriste. Et c'est une personne en situation de handicap. D'un côté, il y a des groupes là qui se lèvent, qui parlent de la garantie de liberté d'expression. Et de l'autre, groupe avec qui on travaille beaucoup, avons-le, les droits des personnes en situation de handicap et les préjugés doivent être défendus. Je dis ça comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée avec ce recours-là, ou plutôt cette poursuite-là?
Bien, en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a eu, une plainte qui a été déposée et on a eu un jugement du tribunal des droits de la personne. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est une décision qui a été finale dans le cas qui nous occupe. Et puis, il y avait ensuite la question de savoir où fait-on appel de cette cause-là. En fait, si une des deux parties veut y faire appel. Dans ce cas-ci, davantage M. Ward, évidemment, parce que le tribunal donnait plutôt raison à Jérémy Gabriel.
Jérémy Gabriel avait gagné, donc Mike Ward fait appel de la décision. Puis il va où exactement en 10 secondes?
Là, on va à la cour d'appel, en fait. L'appel est prévu à la cour d'appel et c'est un appel qui est sur permission, donc c'est pas automatique.
Okay.
Donc, M. Ward doit démontrer certains critères, donc notamment soit que c'est une question de principe, une question nouvelle ou encore qu'on se retrouve devant une question de droit qui a une jurisprudence contradictoire.
Ah ouais.
Donc, la cour d'appel doit donner sa permission pour que l'appel soit entendu.
Merci de ces éclaircissements importants, Laurent. Laurent Trépanier-Capistran, juriste et agent de défense de droit chez Execo. Merci.
Merci beaucoup.